Et cette réalité n'est pas changée parce que la peur. Donc c'est intentionnel. Je vous ai déjà dit, il faut bien comprendre ce que c'est que le mot intentionnel. Qui dit intentionnel dit quelque chose de totalement relatif à un autre et dit que l'autre n'est pas relatif à lui. Donc c'est une relation qui n'est pas mutuelle. C'est ça l'intentionnel. L'intentionnel apparaît dans les différents degrés de vie. La semence contient virtuellement le vivant parfait. Elle le contient intentionnellement. C'est réel, hein, l'intentionnel. Il ne faut pas dire que c'est réel, mais c'est un réel qui est... C'est que la signification est de l'ordre de l'intelligence, tandis que la représentation est de l'ordre intellectuel. Alors il faut saisir ce passage entre les deux. Et quand il s'agit du domaine de la signification, alors nous entrons dans ce domaine particulier de comprendre comment le jugement ne peut pas être l'activité première. Que le jugement est une activité parfaite qui présuppose autre chose. Parce que l'expérience que nous avons du jugement, je crois que cela, nous l'acceptons facilement. Nous affirmons et nous nions. Et du fait même qu'on affirme et qu'on nie, à l'égard de la même réalité, et de la même manière qu'on peut affirmer ou nier, l'axiome de contradiction, par exemple, montre tout de suite que le jugement ne peut pas être premier et qu'il y a nécessairement, au-delà du jugement, une autre opération intellectuelle qu'on appelle la saisie et l'appréhension. Je crois que ça, c'est un moment très important qui, sûrement, dans la scolastique décadente, je ne parle pas de saint Thomas, hein, a été très mal saisi, il me semble. Saint Thomas, lui, parle d'appréhension et de jugement. Et il ne cesse, du reste, en commentant Aristote, en commentant De Anima, de montrer que le jugement implique composition et division, et que l'appréhension est une opération simple. Et parce que l'appréhension est une opération simple, pour lui, l'appréhension est antérieure. Et le jugement implique toujours composition et division. Si le jugement implique composition et division, il est donc second. Et alors on dira, l'appréhension est première et le jugement est second. Saint Thomas, en tant que théologien, n'a pas à traiter la question de savoir quel est le rapport exact entre l'appréhension et le jugement. C'est une question intéressante, du reste, à regarder chez lui. Il y a un mémoire de licence là-dessus. N'est-ce pas ? Parce que c'est un sujet intéressant de voir comment saint Thomas, à l'intérieur de ses œuvres, y a-t-il eu une évolution de sa pensée là-dessus ou pas ? Ce qui est sûr, c'est qu'il affirme tout le temps. Ça, je crois que saint Thomas a toujours affirmé deux opérations. Albert le Grand a fait la même chose, et tout ça provient d'Aristote. Mais saint Thomas, en tant que théologien, ne précise pas quel est l'ordre exact qui est entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que très vite, alors ce très vite provient-il d'Occam ? Point d'interrogation. Y a-t-il eu chez Occam une séparation entre l'appréhension et le jugement? Pas simplement une distinction. La distinction, elle existe chez saint Thomas. Et saint Thomas ne pose jamais la question de savoir si on peut avoir une appréhension indépendamment du jugement ou si toute appréhension est nécessairement donnée dans un jugement. Je crois qu'Occam est le premier à séparer l'appréhension du jugement et considérer que l'appréhension est première, que l'appréhension est en dehors du jugement d'existence et que le jugement d'existence vient s'ajouter à l'appréhension. C'est assez net chez Occam. Pour Occam, la première appréhension, il le dit textuellement, c'est intelligo. Oui, on est à l'origine du cogito de Descartes. Mais il dit intelligo. Le premier moment de la vie intellectuelle, c'est intelligo, je pense. Et puis il ajoute, est amo Socratem. Je pense et j'aime Socrate. Ensuite, il montre comment le jugement sera toujours quelque chose de composé ou de divisé qui viendra s'ajouter. Et là, alors là, tout un aspect intéressant pour montrer comment, à partir de notions simples contenues dans intelligo, nous allons rejoindre le réel. Vous voyez, dans intelligo, je pense le chat, je pense moi, je pense n'importe quelle chose, je pense. Et on va rejoindre le réel par le point de vue du jugement. Et c'est le jugement d'existence qui nous permet de rejoindre le réel. Mais ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est de savoir qu'il y a une séparation entre ces deux moments de la vie de l'intelligence. L'un est premier, l'autre est second, et l'autre vient ajouter. Il ajoute les éléments sensibles, le retour au réel, qui se fait par les sensations. Tandis que le intelligo est séparé des sensations. C'est l'intelligence dans un état pur qui se pense et qui est capable de se penser et qui revient ensuite au réel par le point de vue des sensations qui me permettent de rejoindre le réel physique. À partir de cette position d'Occam, on peut dire que d'une façon générale, même chez les meilleurs thomistes comme Jean de Saint-Thomas, qui vient, vous savez bien, Jean de Saint-Thomas, c'est au moment de Descartes. Au moment où Descartes était à Paris, Jean de Saint-Thomas était à Salamanque. C'était un franc-comtois. Mais à ce moment-là, les francs-comtois étaient espagnols. Donc il était espagnol. Il n'était pas français, il était espagnol. Et c'est très net chez lui. Jean de Saint-Thomas représente une très bonne scolastique. Jean de Saint-Thomas traite de l'appréhension et du jugement comme deux actes non seulement distincts mais séparés de la vie de l'intelligence. Il y a un premier acte, l'appréhension, qui atteint l'universel. Et puis ensuite le jugement qui est capable d'atteindre le singulier. Si je regarde chez Maritain, prends le dernier, si vous voulez, hein. Dernier thomiste. Entre deux, il y a des tonnes manuels hein, qui ne sont pas intéressants, qui se répètent. Maritain a essayé de repenser le problème, mais en fond, on retrouve chez Maritain la même chose. On retrouve le point de vue de l'appréhension qui nous donne les notions universelles et puis le point de vue du jugement qui vient s'ajouter. Donc on peut dire qu'à partir de Occam, il y a une saisie, une vision de l'appréhension et du jugement que je crois n'être pas exactement celle de Saint-Thomas. Mais tout le monde sait qu'Occam a joué un rôle très important sur la scolastique. Ça, c'est évident. Vraiment, Occam a identifié le point de vue métaphysique et le point de vue logique. Alors, au point de vue logique, vous savez bien, vous avez suffisamment de logique pour comprendre qu'au point de vue logique, toute la logique repose sur l'universel. Et que l'universel est l'élément de la logique. Je ne peux pas remonter au-delà de l'universel. Et que le jugement représente, au point de vue logique, quelque chose de tout à fait différent, puisque c'est l'attribution, la prédication. Mais pas la prédication dans le sens prédication, hein. Prédication dans le sens logique, l'attribution. Donc, le point de vue d'un sujet et d'un verbe, qui est distinct de l'universel, et qui nous donne le prédicable. Autrement dit, en logique, je trouve tout de suite le problème des prédicables liés à l'universel, et le problème de l'attribution, qui est un problème distinct des prédicables, et dans lequel je retrouve le jugement d'existence. Et je retrouve d'autres jugements, je retrouve les principes, d'autres tas de choses. Mais en logique, il y a une séparation entre l'appréhension et le jugement. Et je comprends très bien comment Occam, puisqu'il identifie logique et métaphysique, et logique et métaphysique, aboutit à cette séparation. Je voudrais reprendre le problème à sa racine, parce que je crois que c'est très important. Alors, le reprendre d'un point de vue, si vous voulez, que nous nous plaçons ici, de philosophie de la vie, et en même temps d'un point de vue critique. D'un point de vue critique, pour déblayer le terrain, y a-t-il séparation entre appréhension et jugement ? Ça, c'est une question très importante et difficile. Ça vaut la peine d'être très cher. Distinction entre les deux, c'est évident. Je crois qu'on ne serait pas thomiste si on ne disait pas cette distinction. Et je crois qu'on manquerait de bon sens si on n'acceptait pas. Parce qu'au niveau logique, vous comprenez bien, je peux très bien distinguer universel et attribution. L'universel, le problème est prédicable. Vous avez suffisamment de logique pour savoir ce que c'est. Hein. Les prédicables, vous savez, c'est les cinq prédicables. Savoir ça, c'est ces cinq doigts. Ça, il faut le savoir. Hein. Et celui qui ne sait pas ça, on lui fait couler sa licence. Hein. Parce que ça, c'est, il faut savoir ça. Donc, les cinq prédicables, c'est genre, différence spécifique, espèce, propre, accident. Il y a cinq modalités universelles. Et ça, vous le rencontrez dans le langage. Hein. Vous êtes bien obligé de l'accepter. Vous le rencontrez dans le langage. Vous voyez, animal est une notion générique. Rationnel est une différence spécifique, ou bipède, si vous aimez mieux, si vous laissez pour vous comprendre. N'est-ce pas ? Bipède, ou quadrupède. L'espèce homme, propre, capable de rire. Capable d'apprendre la grammaire. Et capable de rire, c'est quand même le propre. Hein. Aucun animal ne rit. Faites rire un singe. On dirait qu'il n'arrive pas. Accident. Des cheveux longs. C'est accident. Alors ça fait partie d'un accident. Ou la barbe blanche, ainsi de suite. Les choses secondes qui viennent s'ajouter. C'est accidentel, ça ne touche absolument rien à l'ordre de l'objet. Tandis qu'il n'est pas capable de rire, ah, ça pose une question. J'ai jamais vu sourire. Est-ce qu'il comprend quelque chose? C'est vrai, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il comprend? J'ai jamais vu sourire, même dans des choses. Non, il ne sourit pas. Il garde un sérieux, pontifiant. Ben, il ne sourit jamais. Et le rire, c'est bien, c'est saisir un rapport et une brisure de rapport. Ça fait rire de voir un homme très pontifiant déraper. Glace. Tout d'un coup, tiens. Même si on l'aime beaucoup, on sourit. Il y a un dérapage, vous voyez. Un dérapage fait que c'est quelque chose de pas normal, une brisure, ça fait quelque chose qui fait sourire. Hein. Les sourires ou qui fait rire. Il y a un gros rire, ça c'est pas le propre de l'homme. Rire sur le zinc n'est pas le propre de l'homme, ça c'est le propre d'autres personnes et d'autres catégories humaines, hein. C'est différent. Là, bon, alors vous avez ça, ça le prédicat, il faut les savoir. Bon, alors, au point de vue logique, c'est l'intelligence. Voilà l'attribution. Intelligent attribué à Pierre. Pierre marche. Attribution. Problème de l'attribution. Donc, au point de vue logique, c'est très net. Il y a la logique de l'universel et la logique de l'attribution. Il y a deux moments de la logique tout à fait différents qui se fondent donc sur deux opérations distinctes. Mais c'est intéressant, la logique qui est très proche du langage, toujours, hein, la logique qui implique le point de vue du langage, je ne peux pas faire la logique sans le langage. Tandis que je peux penser sans le langage. On va se mettre. Et les logiciens arriveront au bout d'un certain temps à dire, vous ne pouvez pas penser sans le langage, parce que vous ne pouvez pas penser sans la logique. Alors il faut savoir si on peut penser sans logique, ou si on... C'est un très grave problème, c'est ça que je touche là, c'est un problème qui est évidemment très très difficile à bien voir. Est-ce que la logique implique toujours le langage? Et dans le langage, c'est net, il y a des mots simples qui ont une signification. Parce que les cinq prédicats aboutissent à la définition. La définition reste universelle, tandis que l'attribution peut être singulière. Pierre est intelligent. Pierre, c'est cet individu que je vois. Cet homme est intelligent. Mais je reviens à quelque chose de concret. L'attribution, une attribution peut être universelle, mais peut être concrète. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit des mots saints, ils ont toujours une signification universelle. Plus ou moins. Selon, justement, qu'on est en face de tel ou tel universel. L'universel générique, l'universel de l'espèce, l'universel propre, l'universel accidentel. C'est toujours l'universel. Le mot simple a une signification universelle, tandis que l'attribution peut être concret. Donc je vois très bien, au point de vue logique, qu'il y a deux opérations de la vie de l'intelligence tout à fait distinctes, et non seulement distinctes, mais même séparées. Mais que l'une présuppose l'autre. Puisque Pierre est intelligent, présuppose l'aspect prédicable. Forcément. Donc, celle-ci est simple, celle-ci est composée. Alors, je vais essayer maintenant, avec vous, d'essayer de comprendre, si je distingue appréhension et jugement, de voir, y a-t-il la distinction, je l'accepte, y a-t-il séparation. Pouvons-nous avoir des appréhensions séparées du jugement? Ce que la scolastique a réalisé à partir de la logique. Oui, c'est ça que je crois qu'il faut saisir. À partir de la logique, on a séparé l'appréhension du jugement. Parce qu'au point de vue logique, il y a une séparation entre les deux. La logique de l'universel, la logique de l'attribution. Alors, je reprends tout simplement, parce que je crois que ça c'est... Et si je regarde uniquement saint Thomas, si je regarde uniquement saint Thomas, tous les textes de saint Thomas, je ne peux pas conclure. Parce que saint Thomas ne s'est jamais posé la question. Saint Thomas a utilisé appréhension, il a utilisé jugement. Il les a rapportés à Aristote d'une façon très curieuse du reste. Parce que quand vous regardez bien le texte, vous voyez que ça ne sert pas du tout. C'est pas ça du tout que vous dire Aristote. C'est très curieux. Mais il fallait bien qu'il l'attribue à Aristote, à appréhension et jugement. Et qu'il essaie de comprendre comment dans Aristote, d'une certaine manière, on trouve appréhension et jugement. Alors c'est une distinction qui vient après Aristote. Je crois que c'est une distinction arabe. Je crois que ça se ramène à Avicenne. Je crois que c'est Avicenne le premier qui a donné le point de vue appréhension et jugement. Parce qu'elle est déjà dans Albert le Grand, et Albert le Grand est très dépendant d'Avicenne. Vous voyez ? Donc c'est une distinction qui doit venir des Arabes. Les Arabes ont beaucoup réfléchi sur la structure de la connaissance. Les Arabes dépendants d'Aristote, mais apportant quelque chose de particulier qui n'était pas dans Aristote. Aristote ne se pose pas le problème de cette manière dans le De Anima. Il se pose autrement le problème, on y reviendra. Donc, dans saint Thomas, je ne peux pas dire s'il y a séparation ou distinction. La scolastique a opté pour la séparation. À cause de la logique, à cause de l'emprise de la logique. Je ne sais pas si on doit maintenir, en pensant saint Thomas, c'est-à-dire en revenant à la source de saint Thomas, si on doit maintenir la séparation. Personnellement, je ne crois pas. Alors, on va essayer de le comprendre. Il faut y réfléchir vous-même, essayer de comprendre ça. Je pars de mon expérience, toujours. Toujours, il faut partir de l'expérience, parce que je ne peux pas avoir d'avance. Ce n'est pas inscrire en grosses lettres appréhension, jugement. C'est moi qui, dans ma réflexion, dis il y a deux opérations d'intelligence, opération et jugement. Il y a deux opérations, mais comment ces deux opérations sont-elles liées l'une à l'autre, ça ne m'est pas dit. Donc je pars de l'expérience. Je prends le jugement le plus simple. Ceci est. Et puis je dis ceci n'est pas. Je crois ça très important de réfléchir là-dessus. Donc, tout simplement, l'action de contradiction. Ceci est, ceci n'est pas. C'est l'action de contradiction. Je ne peux pas affirmer en même temps, sous le même aspect, la même chose et la nier en même temps. Je ne peux pas. Mon intelligence répugne à ça. Donc, c'est une loi, j'ai dit un axiome. C'est un axiome très profond d'intelligence. Ce n'est pas un principe au sens absolu, c'est un axiome. Je constate que mon intelligence est ainsi faite qu'il ne peut pas affirmer en même temps, sous le même aspect, qu'une réalité est et qu'en même temps qu'elle n'est pas. C'est important puisqu'on sait que cet axiome a voulu être dépassé dans la dialectique hegelienne. Pas l'oublier. Donc, c'est quand même quelque chose d'important qui représente une structure très fondamentale de la vie de l'intelligence. Quand je dis ceci et ceci n'est pas, je m'aperçois tout de suite donc que le jugement est double. Il est affirmatif et négatif. Et que normalement, la négation présuppose l'affirmation. N'est pas. Il y a quelque chose de plus qui vient s'ajouter. Donc il y a un ordre entre les deux. Que la négation présuppose l'affirmation et que l'affirmation ne présuppose pas la négation. Mais c'est très intéressant de voir qu'à l'intérieur même du jugement, il y a une dualité. S'il y a une dualité à l'intérieur même du jugement, ça prouve que le jugement n'est pas premier. Même le jugement d'affirmation. Première constatation. Deuxième constatation, il suffit de regarder le langage. Dans le langage, je vois qu'en effet, le jugement toujours m'est donné par notre composition ou par notre division. Ce qui implique composition et division n'est jamais premier. Ce qui implique une composition. Donc le jugement n'est pas premier. Il faut donc essayer de découvrir qu'est-ce qui est avant le jugement, qu'est-ce qui est antérieur au jugement. Si j'analyse le jugement, j'aurai le nom et le verbe. Le nom, ceci, le verbe est. C'est très simple, la grammaire. Hein. Ceci est. Alors, qu'est-ce qui est antérieur, le nom ou le verbe ? Ou est-ce que le nom et le verbe sont dans un rapport réciproque ? Pas de nom sans verbe et pas de verbe sans nom. Le nom, c'est Pierre. Quand je dis Pierre, est-ce que je parle de ma nature humaine ? Ah non, c'est autre chose. Pierre, c'est cet individu. Donc, le ceci implique l'exister, ou implique le non-exister, que j'explicite. Donc, le nom et le verbe sont impliqués l'un dans l'autre. Je ne peux pas les séparer. C'est important de voir ça, parce qu'autrement, vous diriez, ah oui, c'est le nom qui est avant, et le verbe vient s'ajouter. Non. La structure du jugement implique une réciprocité entre le nom et le verbe. Autrement dit, le nom et le verbe vont de fait apparaître en même temps dans la structure du jugement. Et la structure du jugement, ce qu'elle est de plus élémentaire, implique nom et verbe. Donc ce n'est pas le nom qui est antérieur au verbe. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Les deux sont réciproques l'un par rapport à l'autre. Il faut donc un troisième terme qui soit antérieur, puisqu'il y a quelque chose d'antérieur. Et donc ce qui est antérieur n'est ni le nom ni le verbe. Qu'est-ce qui est antérieur ? C'est un élément simple. Qui ne peut pas se ramener au nom et qui ne peut pas se ramener au verbe. Alors j'ai dit, ah oui, du point de vue logique, l'universel est antérieur à l'attribution, et l'universel vient qualifier des noms simples, dont la signification est simple, animal, homme, hein? Pierre, ceci est, Pierre existe, Pierre ce n'est pas homme, c'est pas la même chose, mais pour pouvoir dire Pierre, est-ce qu'il ne faut pas connaître homme ? Mais c'est ça qui me semble important, c'est que le troisième terme, qui est en réalité le premier, hein, mais dans mon analyse, je suis obligé de dire il y a quelque chose d'antérieur au nom et au verbe qui n'est ni le nom ni le verbe, et qui est quelque chose de saisi par l'intelligence, quelque chose de simple. Le nom n'est pas simple, et le verbe, il est toujours relatif au nom. Alors, de fait, il y a quelque chose d'antérieur qui est simple et qui fait partie de la vie de l'intelligence. L'intelligence appréhende quelque chose de la réalité d'une manière antérieure au nom et au verbe. Et c'est ce que j'appelle justement la saisie, l'appréhension de l'intelligence par rapport à ce qui est. Précisons quel est le contenu exact de cette appréhension. Cette appréhension saisit les déterminations essentielles, elle saisit, quand je dis les déterminations essentielles, je veux dire le toti en einain. Elle saisit la quidité. Et ça, saint Thomas ne cesse de dire que l'appréhension saisit la quidité. Ici, vous voyez, la logique le montre bien. Je me sers de la logique pour comprendre. Vous voyez, j'ai tout à fait le droit de faire ça. La logique, c'est quelque chose dont je peux me servir. Parce que la logique met en lumière certains aspects que je ne verrais pas autrement. Je me sers du langage. Ce sont des signes. Mais je vais plus loin quand j'analyse le jugement et que je vois que le troisième terme n'est ni le nom ni le verbe et qu'il doit être quelque chose qui est au-delà du nom, au-delà du verbe. Et qui doit être, par le fait même, la nature. Non pas l'individu, mais la nature. Ce qui est capable d'être universel. Le genre, la cuidité. L'intelligence saisit les déterminations essentielles de la réalité. Elle appréhende les déterminations essentielles de la réalité. Voilà ce que l'intelligence saisit en premier lieu. Elle saisit ces déterminations essentielles de la réalité. La cuidité. Alors, très bien de voir ça, c'est intéressant, je mets là en lumière une première opération dont je peux voir les résultats, la logique les met en pleine lumière, puisque je distingue cinq prédicables, et les cinq prédicables me montrent bien les cinq touchés de l'intelligence à l'égard de la réalité. Comment l'intelligence touche certaines déterminations essentielles de la réalité. Donc mon intelligence, dans ce qu'elle a de plus elle-même, appréhende quelque chose de la réalité. Est-ce que cette appréhension peut être séparée du jugement? Ou est-ce que cette appréhension est toujours à l'intérieur du jugement? Ça, c'est la dernière question. Après une fois que j'ai compris qu'il y a nécessairement une opération distincte du jugement, et qui n'est pas, et si c'est un élément du jugement, le jugement serait quelque chose qui vient s'ajouter. Alors, c'est pas ça du tout, c'est quelque chose d'extrinsèque et qui est contenu dans le nom et qui n'est pas le nom, qui est quelque chose d'antérieur au nom au point de vue de sa signification, mais qui n'est pas le nom, qui n'est pas non plus le verbe. Donc c'est quelque chose qui est antérieur que l'intelligence est capable de saisir. Est-ce que l'intelligence, en le saisissant, le sépare? Autrement dit, est-ce que l'intelligence, en appréhendant, se sépare du jugement? Ou est-ce que toute appréhension est à l'intérieur d'un jugement? Ça, c'est une question très délicate, qui a son importance. C'est pour ça que je la traite autrement. Ça n'a pas son importance. Mais je crois que c'est par là qu'on... que de fait la logique prend le pas sur la connaissance critique, ou au contraire la critique maintient l'ordre profond de l'intelligence. Il y a deux positions, il y a deux positions très nettes. Une position logique et une position critique, celle que nous prenons maintenant, pour essayer de voir si l'appréhension peut être séparée du jugement. Que l'appréhension soit un acte propre, c'est-à-dire qu'elle est un objet particulier, c'est bien évident. Elle a comme objet la saisie des déterminations simples, indivisibles. Elle saisit le toti enainain, la cuidité. Elle saisit les déterminations essentielles, génériques, différents spécifiques, espèces, propres, accidents. Elle saisit ça. Alors, elle le saisit à l'intérieur d'un jugement et non pas à l'extérieur d'un jugement, mais à l'intérieur d'un jugement. Pourquoi? Parce que l'intelligence doit être en contact avec la réalité pour saisir la détermination de la réalité. Le toti en einain, c'est justement saisir le tien du to einain. Donc c'est saisir l'intelligibilité permanente de la réalité à l'intérieur de cette réalité qui existe. C'est l'intelligence qui prend son bien, l'intelligence essentielle du réel, et à partir du réel existant. Aristote dit que l'interrogation du eis esti est première par rapport à l'interrogation du ti esti. Hein, je vous ai déjà dit ça. Aristote dit que l'interrogation du eis esti est avant l'interrogation du ti esti. Eis esti, cette réalité existe-t-elle? En latin, l'âme sit. Et le quid sit. Ceci existe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Et je vous avais déjà dit que Descartes fait juste l'inverse. Descartes dit que ti esti est premier et que eis esti est second. Alors que pour Aristote, c'est l'inverse. Donc on est là en face de deux positions diamétralement opposées, celle d'Aristote et celle de Descartes. Vous voyez que ça rejoint la position de l'appréhension et du jugement. C'est curieux. Si je fais de l'appréhension un acte premier séparé du jugement, le ti esti est avant le esti, et je suis dans la ligne de Descartes, qui lui-même est dans la ligne de Occam. Et je suis dans la ligne de tout ce qui va être la modernité. C'est pour ça que c'est intéressant, on touche là quelque chose de capital dans la vie de l'intelligence. Et la scolastique a répété, répété, sans voir du tout qu'à partir de ce moment-là, elle n'était plus dans le réalisme. Mais était tout simplement dans un idéalisme. Si vous mettez l'appréhension séparée, première, et que le jugement est second, vous voyez bien, le ti esti de l'appréhension est antérieur au eis esti qui vient ensuite. Et donc on a la position de Descartes. Comme on est en face de quelque chose de tout à fait premier, vous savez cette parole d'Aristote qui est très intéressante, quand il s'agit de la source, la moindre déviation a d'immenses conséquences. Il suffit d'aller en Suisse, à la source du Rhône et à la source du Rhin, pour voir que la source du Rhône et la source du Rhin ne sont pas tellement loin l'une de l'autre, et pourtant ça fait deux fleuves assez différents. Et les sources sont assez proches. Quand je suis tout proche de quelque chose de premier, de fondamental, la moindre petite erreur joue un rôle énorme. Vous allez dire que l'appréhension est séparée du jugement sans aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. Eh bien, si vous dites que l'appréhension est première, ce que nous disons tous que l'appréhension est première, mais tout dépend, première, de quelle manière? Première séparée du jugement ou première dans une analyse du jugement? C'est pas tout à fait la même chose. Première séparée du jugement, donc première existant indépendamment du jugement. Alors à ce moment-là, vous êtes obligé de considérer que le ti esti est antérieur à l'eis esti. Et vous avez la position de Descartes. Si au contraire, vous reconnaissez que l'appréhension est première à l'intérieur d'une analyse du jugement, mais que le jugement seul existe et que l'appréhension existe à l'intérieur du jugement. Le jugement seul existe séparé, parce que le jugement seul est parfait. L'appréhension est imparfaite. Elle est embryonnaire. L'embryon n'existe que dans le sein maternel. Eh bien, ici, c'est le sein maternel, c'est le jugement. Eh bien, l'embryon est dedans. Et je peux regarder, je peux essayer de saisir ce que c'est. Et je vois que cette appréhension, si je la sépare du jugement, je tombe dans l'idéalisme. C'est curieux, ça. Hein, donner à l'embryon une valeur séparée de sa source, donc hypostasier l'appréhension en lui donnant une valeur distincte et une existence distincte, je suis immédiatement dans la perspective de Descartes. Je suis immédiatement dans la perspective d'Occam. Et c'est la logique qui prend le pas sur la critique. C'est la logique qui prend le pas sur la connaissance philosophique. En logique, l'universel existe avant l'attribution. Et l'universel existe séparé avant l'attribution. C'est bien évident. En philosophie du vivant, dans la vie de l'intelligence, l'appréhension n'existe jamais en dehors du jugement. Elle existe à l'intérieur du jugement. Alors, comprenons bien, c'est ça qui est intéressant. Mon intelligence n'a pas d'idée innée. Mon intelligence saisit la réalité qui existe. Pour la connaître, il faut qu'elle ait une expérience. Il faut qu'elle soit en contact avec cette réalité. Il faut qu'elle la touche, il faut qu'elle la voie, il faut qu'elle la connaisse. Il faut donc l'expérience qui est première. L'expérience implique toujours un jugement. Et c'est en analysant cette expérience que je vois que cette expérience implique une appréhension, comme un élément de la vie de l'intelligence. Mais l'appréhension n'est pas une expérience. L'appréhension est tout simplement le fruit d'une analyse que vous faites à l'égard du jugement. L'appréhension n'est pas une expérience. Cherchez bien, vous n'arriverez pas à saisir une appréhension. Vous saisirez un jugement, et si vous poussez un tout petit peu l'analyse, il dira, mais oui, quand je dis homme, l'homme peut très bien pas exister. Je n'ai pas l'expérience de l'homme. Vous avez l'expérience de l'homme? Non. J'ai l'expérience de tel homme particulier, mais je n'ai pas l'expérience de l'homme. J'ai l'expérience de Pierre, l'expérience de Jacques, de Philippe. Ça, j'ai l'expérience de ça. Mais je n'ai pas l'expérience de l'homme. Et pour avoir l'expérience de cet homme, il faut concevoir homme. Il faut appréhender homme. Et donc, ce noyau tout à fait premier de l'appréhension, c'est une condition sine qua non de toute expérience. Condition sine qua non de tout jugement. Tout jugement implique une appréhension. Toute expérience implique une appréhension. Mais l'appréhension n'est pas un jugement, l'appréhension n'est pas une expérience. C'est un premier élément embryonnaire, parce qu'imparfait, ne pouvant pas subsister par lui-même. Donc, un élément embryonnaire de la vie de l'intelligence. Alors, vous voyez comment on précise progressivement qu'il y a ce noyau dans toute connaissance intellectuelle, dans tout jugement, il y a ce noyau qui est premier, mais qui n'existe qu'à l'intérieur du jugement, et qui n'existe que dans le jugement. Revenez un instant sur tout simplement le jugement d'existence. Alors je crois qu'à ce moment-là-ci, ça va être quelque chose qui va être un peu plus clair pour vous, de comprendre comment ce jugement le plus simple qui soit, Vous ne pouvez pas avoir un jugement plus simple que le jugement d'existence, ceci est. Le jugement le plus simple qui soit, ceci est, il est composé. Il est doublement composé. Il est composé quant à ses déterminations, il est composé en ce sens que je peux toujours nier ce que j'ai affirmé. Donc il y a à l'intérieur même de l'affirmation une potentialité qui demeure de la négation. C'est extraordinaire. Je peux toujours dire ceci n'est pas. C'est très extraordinaire de pouvoir faire ça. Hein. Ce qui montre que l'intelligence n'est pas pleinement actuée par le jugement d'existence. Autrement, elle dirait ceci, c'est tout. Hein. Toujours un malin génie qui vous dit, mais c'est peut-être que ça n'existe pas. Tu as touché la table, peut-être qu'elle n'existe pas. Cette table, je n'ai pas sûr qu'elle existe. Et il y a toujours possibilité de nier. C'est très très curieux ça. Donc il y a une potentialité qui demeure à l'intérieur du jugement d'existence. Si le jugement d'existence était simple, ben, il n'y aurait pas de possibilité d'une négation. Il faut donc qu'à l'intérieur de ce jugement d'existence qui apparaît simple, qui psychologiquement m'apparaît simple, il y a une possibilité de l'ébranler. La négation peut pénétrer dedans. Et le ver rongeur de la négation. C'est pas magnifique, mais il y a un ver rongeur dedans. Et dans toutes mes affirmations, il y a un petit ver rongeur qui est la négation. Et qui peut pénétrer dedans, et qui peut maintenir le doute. C'est le doute, c'est ça. C'est qu'après tout, ça peut être non. Il y a la possibilité qui demeure. C'est très important de comprendre ça, parce que ça montre que le jugement d'existence, si simple...